La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, en Jésus le Christ, notre Sauveur, notre Frère. Bienvenue à vous tous ici dans ce lieu de culte, ce lieu où nous sommes rassemblés ensemble, lieu de fraternité, lieu où va avoir lieu ce matin deux événements importants puisqu'il s'agit d'un baptême, un baptême qui a été demandé par notre ami Samuel. Et puis aussi, nous partagerons avec lui et ses proches une sainte scène dans laquelle vous pourrez entrer évidemment à distance, à votre place. Mais nous espérons que ce moment de sainte scène un peu virtuel, si toutefois cela puisse exister, soit pour vous un moment de communion fraternelle intense. Nous sommes rassemblés en ce dimanche avec le chœur de l'Oratoire du Louvre et nous sommes très heureux de partager ce moment avec vous et de pouvoir bénéficier de toute cette beauté avec Fabien qui mène ce chœur dans cette œuvre pour que la musique et le chant soient notre louange. Nous sommes avec David Cassan ce matin qui accompagnera ce culte à l'orgue. Je vous invite à prier ensemble en entrant dans ce temps si particulier dans notre vie. Seigneur, nous sommes rassemblés ce matin dans ton Église. Permets que nous soyons une communauté de prière et de joie autour de celui qui va recevoir le signe de ta grâce. Que chacun ici soit compté au nombre des témoins de ton amour pour ce monde et que notre foi fasse grandir notre amour du prochain. Envoie ton Esprit Saint sur nous, Seigneur. Nous nous réunissons dans la joie du chant avec le premier spontané qui est dans les livres, dans les psautiers français. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble. Et nous louons le Seigneur avec le psaume de louange qu'a choisi Samuel aujourd'hui pour nous, de David. J'exalterai mon Dieu, et toi qui es le roi, pour toujours, à jamais je bénirai ton nom. Je te bénirai sans cesse, pour toujours, à jamais, je louerai ton nom. Le Seigneur est grand et digne de toute louange. Sa grandeur est insondable. De génération en génération, qu'on fasse l'éloge de tes œuvres, qu'on raconte tes hauts faits, la magnificence éclatante de ta gloire. Je méditerai le récit de tes actes étonnants. On parlera de ta force redoutable et je raconterai tes hauts faits. On proclamera le souvenir de ton immense bonté. On criera ta justice. Le Seigneur est clément et compatissant, patient et grand par la fidélité. Le Seigneur est bon envers tous. Sa compassion s'étend pour toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te célébreront, Seigneur, et les fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils parleront de ta puissance pour faire connaître aux humains tes hauts faits et la gloire magnifique de ton règne. Ton règne s'étend sur tous les âges, ta domination sur toutes les générations. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Tous, avec espoir, tournent les yeux vers toi. C'est toi qui leur donnes leur nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout être vivant. Le Seigneur est juste dans toutes ses voies et fidèle dans toutes ses œuvres. Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec loyauté. Il réalise les souhaits de ceux qui le craignent. Il entend leurs appels au secours et il les sauve. Le Seigneur garde tous ceux qui l'aiment. Il détruit tous les méchants. Que ma bouche dise la louange du Seigneur. Que pour toujours, à jamais, tout être bénisse ton nom sacré. Nous chantons ensemble notre louange avec le psaume 66, la version B, dans les psautiers français, les strophes 1, 2 et 3. Écoutons la volonté du Seigneur à travers les mots de l'apôtre Paul qui parle aux Colossiens. Il leur dit « Vous vous êtes dépouillés de l'homme ancien avec ses agissements et vous avez revêtu le nouveau qui se renouvelle en vue de la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a là ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni homme libre, mais le Christ est tout en tous. Ainsi donc, vous qui êtes choisis par Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'une tendresse magnanime, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Nous chantons.
Thank you.
nous nous présentons devant Dieu et nous prions avec cette prière d'une diaconesse, sœur Myriam. Seigneur, tu sais de quelle miséricorde nous avons besoin. Tu sais nos obscurités, nos silences, nos oublis, nos vanités. C'est à chacun comme un secret que tu les révèles. C'est à chacun comme un secret que tu les pardonnes. C'est à chacun comme un secret que tu donnes l'ordre de se relever et de marcher pour un nouveau service, pour un nouvel amour. Aussi, c'est avec confiance que nous te disons « Aie pitié de nous ». Amen. Le Seigneur renouvelle sa grâce sur quiconque se tourne vers lui. Et il nous dit à travers les mots du prophète, quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel, dit le Seigneur, et je te garde ma miséricorde. Chantons notre reconnaissance. Voilà, je vous invite à vous installer. Je vais inviter Samuel à me rejoindre. Voilà. Samuel, tu as demandé à recevoir le baptême ici dans cette église, mais c'est le baptême qui fera de toi le bienvenu dans toutes les églises. L'église aujourd'hui accueille ton souhait avec joie. Veux-tu confesser ta foi devant cette assemblée?
Oui, je le veux.
Alors, je te laisse la parole, Samuel.
Je crois en Dieu, le Créateur de toutes choses et la source de toute vie. Il est invisible et pourtant omniprésent dans ma vie. Jamais cette alliance ne se rompt. Grande est son exigence, mais infinie est sa patience, comme sa miséricorde. Il est ma force, mon secours, mon espérance et mon réconfort. Sa grâce me vivifie et me renouvelle. Autant je doute parfois de moi, autant j'ai confiance en lui. Il décuple ma joie d'aimer et d'exister. Jésus, le Christ, est mon Seigneur. Il incarne pour moi la sagesse suprême. Quand tout est confus, sa lumière est alors le plus grand des discernements. Par son regard, je vois l'autre comme un frère en humanité. Il me dit de croire en chaque homme, même lorsque l'humanité me déçoit. Par sa vie, je vois la grandeur qui peut résider dans l'humilité. Par le don ultime qu'il a fait aux hommes, il m'apprend que le don enrichit et ne dépouille pas. Par sa parole, il me tient éveillé lorsque l'indolence morale me guette. Il me veut indulgent face à mes imperfections, mais vigilant face à mes bassesses. Il me rappelle que la frontière du bien et du mal est en moi. Il m'éloigne des faux semblants et m'apprend que la vérité libère et sauve. Il est la plus grande source de paix et de justice. Lorsque je lui ouvre mon cœur, je n'ai à regretter ni mes paroles ni mes actes. Son exemple me donne patience dans la souffrance, persévérance dans la détresse. Son courage éloigne de moi la peur des autres et de moi-même. Chaque jour, il me donne confiance et espérance. L'Esprit Saint est cette force agissante qui me nourrit et m'inspire. Il est ce témoignage de Dieu qui m'unit au Christ et aux autres d'un même mouvement, qui unifie l'existence derrière son apparent éclatement. Grâce à lui, je veux être, mais encore croître et devenir. Il est un don que je veux faire fructifier, dont je veux être digne. Il est cette foi qui me montre le chemin de la liberté, de la plénitude et de l'accomplissement.
Voilà, je crois que nous avons été tous extrêmement touchés par ta confession de foi, Samuel, et que nous en sommes restés muets. Voilà. Voici la volonté de Jésus-Christ pour son Église. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, dit le Seigneur. Je vous invite à vous asseoir pour entendre l'instruction du baptême qui va être dite ici. Samuel, tu vas être baptisé au nom du Père qui te donne le souffle de vie. Tu vas être baptisé au nom du Fils Jésus-Christ, mort et ressuscité pour toi et qui t'appelle à son service. Tu vas être baptisé au nom du Saint-Esprit qui a fait naître en toi la foi, l'espérance et l'amour. Il y a de l'eau ici, qui est de l'eau tout à fait ordinaire dans ce baptistère. Mais avec la parole de Dieu, cette eau devient eau du sacrement du baptême, eau d'une nouvelle naissance pour toi. Chaque jour, frères et sœurs, notre baptême nous rappelle que nous dépendons de Dieu seul et qu'ensemble nous vivons de son amour. Samuel, veux-tu recevoir le baptême ?
Oui, je le veux.
Alors je vais t'inviter à me suivre. Et après le baptême, vous serez invité à participer comme témoin de ce baptême en chantant le 204. Mais nous entendrons d'abord une amie de Samuel qui est venue avec lui pour chanter la première strophe, et puis nous reprendrons avec elle ensuite avec David et Fabien et le chœur. Voilà, merci de préparer vos cantiques. Samuel. Frères et sœurs, par ce baptême, nous attestons que Samuel est enfant de Dieu. Il est ici chez lui. Vous êtes sa famille spirituelle. Vous lui accorderez, ainsi qu'à ses proches, le soutien de votre prière. Aucune contrainte ne le retiendra dans la communauté chrétienne. Mais s'il venait à s'en séparer, vous affirmerez qu'il peut toujours y retrouver sa place. Vous serez ainsi pour lui des témoins de l'amour de Dieu. Voilà, Samuel. Et je vous invite à la prière. Père, nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour Samuel, qui vient de recevoir le signe de ta grâce. Nous te prions pour lui et pour ses proches, et nous te remercions pour notre propre baptême et pour la fidélité de ton amour pour tous. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Et ce matin, nous lirons dans le livre de Samuel, le deuxième livre de Samuel. Voilà, et nous avons choisi avec Samuel ce texte biblique qui nous remet dans la joie de la fête, la joie du roi David. Deuxième livre de Samuel, chapitre 6, verset 12. On dit au roi David, le Seigneur a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartient à cause du coffre de Dieu. Alors David se mit en route et, dans la joie, il fit monter le coffre de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la ville de David. Quand ceux qui portaient le coffre du Seigneur eurent fait 6 pas, il sacrifia un taureau et une bête grasse. David dansait de toute sa force devant le Seigneur. David portait un éphod de lin comme un pagne. David et toute la maison d'Israël firent monter le coffre du Seigneur avec des acclamations et au son de la trompe. Comme le coffre du Seigneur entrait dans la ville de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre. Elle vit le roi, David, sauter et danser devant le Seigneur, et elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené le coffre du Seigneur, on le plaça en son lieu, à l'intérieur de la tente que David avait dressée pour lui. Et David offrit devant le Seigneur des holocaustes et des sacrifices de paix. Quand David eut achevé d'offrir l'holocauste et le sacrifice de paix, il bénit le peuple, au nom du Seigneur Adonai. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un gâteau de pain, un gâteau de dattes et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla chacun chez soi. David revint pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quelle gloire aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être exposé aux yeux des serviteurs de ces gens comme s'exposerait un homme de rien. David répondit à Michal, c'est devant le Seigneur que j'ai agi ainsi, lui qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'instituer chef sur le peuple du Seigneur. Israël. Et c'est devant le Seigneur que je continuerai à jouer de la musique. Je veux paraître encore moins que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Et c'est auprès des serviteurs dont tu parles que je veux avoir ma gloire. Michal, fille de Saül, n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Je vous invite à prier ensemble. Seigneur, bénis notre lecture. À travers ces mots bibliques, anciens, voulus par d'autres témoins de la foi avant nous, permets que nous y trouvions notre miel, les mots pour notre foi. Amen. Pauvre Michal, elle a le bien triste rôle du rabat-joie dans cette histoire. Dans un épisode plein de joie et de ferveur, elle est cette voix qui essaie de gâcher le plaisir du roi. Il faut dire que Michal est la fille de Saül, le roi qui fut tour à tour le protecteur puis l'ennemi du jeune David. Elle fut donnée en mariage à David et la Bible nous dit que David épousa ensuite Abigail et d'autres femmes aussi, alors qu'elle fut donnée en mariage à Palti de Galim. Elle a donc une vie sentimentale très mouvementée et pleine de déceptions. Elle a toujours été une sorte de monnaie d'échange diplomatique, voire même de piège tendu par son père pour servir sa paranoïa. Elle a quelques raisons d'être frustrée. Elle qui fut donnée en mariage à David contre une dot de 200 prépuces de Philistins. Et oui, ça se faisait. Tuée par David à la guerre, alors qu'il aurait dû se faire tuer par eux, car c'était là le plan de Saül, bien sûr, l'envoyer au combat en première ligne pour qu'il se fasse tuer. Mais David a survécu et il a pu donner la dot terrible. Mais malgré tout, les textes disent que Michal aimait sincèrement David. Elle lui sauva même la vie alors que son père tendait un nouveau piège. Michal est honteuse de celui qu'elle aime quand elle le voit danser, tournoyer, sans gêne, dans une tenue très impudique à ses yeux. David porte le pagne d'éphod, ce tissu de lin que revêtent les prêtres. Et il s'adonne à une liturgie quelque peu débridée devant le coffre de l'Alliance, devant son Seigneur, comme il dit lui-même. Entre Michal et lui, il y a une incompréhension de fond. En préparant le baptême de Samuel, nous avons évidemment parlé de ce texte qu'il a choisi de nous faire partager aujourd'hui. Et nous avons évoqué cette expression de la joie spirituelle. Cette joie qui s'exprime sans que les codes habituels de la pudeur ou de la honte ne puissent avoir de prise sur celui qui l'éprouve. Quand Samuel chante, car c'est son métier et sa passion, il chante en donnant ce qui est le plus intime en lui dans un acte sincère, où la question de savoir si l'on va le juger pour son impudeur ne se pose pas, bien sûr. En effet, l'engagement dans le chant lyrique ne concerne pas l'image que l'on souhaite renvoyer pour plaire, mais bien plutôt une expérience qui fait appel à la sincérité et à l'intimité de l'artiste. Celui qui chante peut être le même homme que celui qui est tout timide dans la vie quotidienne, sauf que par le chant, une dimension transcendante permet un dépassement des barrières habituelles qui rend possible le partage de la joie intime, comme parfois du tragique aussi, sans que ce soit un problème. L'artiste est alors dans son rôle, il interprète, mais avec ce qu'il y a de plus profond en lui, il y met de lui-même bien sûr. Il joue, mais avec ce qui fait sa singularité, son intimité. Il se passe alors quelque chose qui ne se passe nulle part ailleurs, comme une découverte de quelque chose en soi qui ne peut être exprimé autrement que par cet outrepassement. Un moment de vérité, d'authenticité irremplaçable. Le roi David est dans cette authenticité. Il ne cherche pas à plaire à qui que ce soit, ni à déplaire. Il se moque des rabat-joie. Il n'y pense pas. Il exprime ce qui outrepasse en lui son humanité limitée. Il est exalté par son bonheur de croire, d'avoir en lui quelque chose de bien plus grand que lui. Le coffre de l'Alliance entre à Jérusalem. C'est une liesse populaire et manifestement aussi royale, intime, singulière pour David. Mais que signifie cet événement dans l'histoire d'Israël pour qu'on le raconte de cette façon-là? Sans doute cette histoire n'est-elle pas historique du tout. Encore une fois, il faut le dire, le coffre de l'Alliance correspond à plusieurs réalités dans l'histoire d'Israël. Sans doute le peuple d'Israël avait un dieu tutélaire d'abord, Adonai, dont on transportait la statue dans un coffre, comme cela se faisait beaucoup dans tous les autres peuples autour. Et oui, Yahvé était sans doute d'abord une idole de pierre ou de bois. Puis après la réforme du roi Josias, bien plus tard, on décida de mettre deux tables de pierre dans un coffre en guise d'arche d'alliance, deux tables de la loi bien sûr. Puis les Babyloniens déferlèrent sur Jérusalem et saccagèrent tout. Le temple, le Saint des Saints, furent saccagée et on ne retrouvera jamais ce coffre. Après l'exil à Babylone, on parla de reconstruire un sanctuaire avec dedans un coffre en bois d'acacia, toujours, mais cette fois-ci recouvert entièrement d'or et surmonté de chérubins. Mais rien de tout cela n'arriva. Et on ne sait pas jusqu'à aujourd'hui ce qu'est devenue cette fameuse arche d'alliance. Ce que décrit la Bible contredit ce que disent les historiens et les archéologues. L'entrée de l'arche n'a pas pu se faire à Jérusalem au Xe siècle avant Jésus-Christ avec le roi David, dansant à moitié nu comme un exalté. Bien sûr, ce n'est pas ce qui doit remettre en question le message de la Bible, mais cela doit nous interroger tout de même. Pourquoi situer un événement aussi important à Jérusalem alors qu'il est très vraisemblable qu'il n'y ait pu s'y produire, puisqu'à l'époque où se situe le récit, le royaume du nord, Israël, et celui du sud, Juda, n'étaient pas du tout unifiés, et que Jérusalem était une petite ville ne comptant sans doute pas plus que 2000 âmes, une bourgade en quelque sorte. C'est que le désir d'un grand royaume unissant le nord et le sud autour du même Dieu est un désir ancien des rois de Samarie et des rois de Juda. L'arche d'alliance qui entre dans Jérusalem sous les acclamations du peuple, c'est le récit national d'un peuple qui a besoin de croire à son unité toujours possible, à sa force contre les envahisseurs, à son unité, à sa solidarité, mais aussi à son salut après l'invasion des Assyriens. Cette invasion qui avait saccagé Samarie et qui oblige une partie des habitants du nord à se réfugier au sud, grossissant ainsi subitement la population de la petite Jérusalem et lui apportant le développement que Samarie connaissait avant l'invasion. L'histoire et l'archéologie attirent ainsi notre attention sur ce héros national qu'est David, pour une grande part fictif, et sur cet événement de joie terni par l'intervention de Michal. Ce mépris de Michal, c'est le mépris des orgueilleux, de ceux qui projettent sur leur héros, leur personnage public, leur star, tout ce qu'ils veulent, eux, pour leur propre gloire, pour flatter leurs propres sentiments, souvent. David se donne en spectacle dans une allure dégradante aux yeux de Michal. Mais cette réprobation reste bien secondaire aux yeux de David. L'intervention de Michal dans le récit permet toutefois au personnage de David de s'expliquer sur sa conduite. David sert le Dieu qui lui a conféré l'onction royale. Cette onction a été confirmée par toutes les tribus d'Israël dans le récit. « C'est devant le Seigneur que j'ai agi ainsi, dit-il. » David est tout petit devant le Seigneur et il est prêt à s'abaisser encore auprès de ses servantes dont parle Michal, car c'est auprès d'elles qu'il veut gagner sa gloire. David se moque bien de remplir le rôle de roi en écrasant son pouvoir et de sa gloire le peuple que Dieu lui confie. Il a bien compris que ce n'était pas cela son rôle. Il veut servir Dieu. Il n'est pas là pour qu'on le craigne à la place de Dieu, qu'on le loue à la place de Dieu, qu'on le bénisse à la place de Dieu. David est et restera le berger qui toujours s'est demandé qui il était pour avoir été élu par Dieu ainsi. Il reste le petit pâtre qui joue de la musique en gardant ses brebis. Et il sait que le service qu'on lui confie est un honneur et une responsabilité qu'il ne doit pas à sa petite personne, mais à Dieu qui l'appelle à servir. Alors, chers amis, ne vous inquiétez pas, nul besoin de se mettre à danser à moitié nu devant le temple pour être un serviteur sincère de Dieu. Mais quand même, quelle belle idée que celle de pouvoir exprimer sa foi et son bonheur de croire avec ce qu'on est et pas avec ce que d'autres voudraient bien qu'on soit. Car il s'agit bien de cela, ne pas bouder son appel, mais l'endosser en toute humilité et en toute simplicité, sans renier ce qui fait ce que l'on est, vraiment au fond de soi. C'est David qui est appelé, pas la rabat-joie Michal, qui n'aime pas sa façon de bouger, de s'habiller, ou plutôt de se déshabiller, de chanter, de prier, ou de jouer de la lyre. Michal ne reconnaît pas à Dieu le droit d'appeler les gens très différents d'elle, et dont l'image et l'attitude ne sont pas en conformité avec l'idée qu'elle se fait d'un appelé, d'un serviteur de Dieu. Michal n'aime pas la foi de David parce qu'elle la dérange dans ses images de la foi et de l'autorité. Le personnage public, l'homme ou la femme de pouvoir ou d'autorité, sont les lieux de projection des désirs de ceux qu'ils doivent servir et souvent les cibles de leur condamnation morale. Ce que rétorque David ici, c'est ce que dira le Christ à ses disciples bien plus tard. Il n'est pas venu imposer aux autres par son image plaisante son pouvoir et sa force. Il est venu servir, et c'est de ce service qu'il tire son autorité. Dût-il s'humilier pour la cause qu'il sert ? Ce n'est pas sa personne qui compte, mais la foi qu'il place dans l'appel qu'il a reçu, dans la mission qu'il doit accomplir. Comme Auguste Sabatier le décrivait dans son livre sur la religion de l'esprit, l'Évangile est à la religion ce que le devoir est à la morale. Ainsi, le serviteur de Dieu est au-delà de la morale. Il est dans l'Évangile. Il obéit par joie et librement, sans contrainte. Il a répondu à l'appel. Il engage donc ce qu'il est dans son action, pas pour se conformer à une morale, mais pour jouir de la liberté qui lui est donnée dans la foi. Il engage son action et sa personne. Ainsi, le Christ en nouveau David, comme il est présenté dans les évangiles, reçoit-il l'onction du royaume de Dieu, le baptême, de la main de Jean-Baptiste, qui se dit lui-même indigne de délier la courroie de ses sandales. Et pourtant Jean-Baptiste sert, lui aussi, humblement. Le Christ est le serviteur libre et consentant de tous. Et il nous dit que c'est celui qui sert les autres qui est dans la sincérité de la foi. Pas celui qui cherche sa propre gloire à travers la responsabilité qui lui est confiée. Ainsi en est-il de quiconque souhaite entrer au service de cette parole de salut qui parcourt la Bible. La joie du service n'est pas dans la gloire qu'on en retire, vous l'avez bien compris, mais dans le service lui-même. David est débordant de générosité à ce moment-là. Il donne à chacun des membres de son peuple un gâteau de pain, un gâteau de dattes, un gâteau de raisin. Sa joie et sa prodigalité pour le peuple sont les fruits de sa foi. Cette image mythique du bon roi est celle du serviteur tel que la Bible nous le présente. Nous avons ce matin vécu un baptême ensemble, avec ce signe visible de la joie infinie que procure la foi. Nous sommes dans la même fête que le roi David. David fête l'arrivée du coffre de l'Alliance, il fête le don de la loi qui rend libre. Et la fête est toujours une exaction par rapport aux règles de la morale. Pas étonnant alors qu'il sorte du cadre. L'arrivée de l'Arche d'Alliance, c'est la fête des serviteurs d'un Dieu qui accompagne son peuple dans toutes ses aventures et qui se réjouit d'une telle alliance. À nous de lui signifier, à ce Dieu qui nous accompagne, notre reconnaissance pour cet amour extraordinaire et cette fidélité sans faille, et entrez nous aussi dans la danse. Que notre service soit le reflet de notre joie de servir. Que notre foi rayonne au travers de nos dons, de nos talents, de nos charismes. C'est chacun de nous que Dieu choisit par la foi. chacun de nous dans sa singularité, avec sa personnalité. Et il n'y a pas de modèle pour la joie. Il y a la joie d'aimer. Et quand elle est sincère, pas une amicale au monde ne devrait pouvoir l'assombrir. Amen. Je vous invite à chanter ensemble le cantique 308 « Confie à Dieu ta route ».
Thank you.
Voilà, alors je vous invite à vous asseoir. Nous allons partager ensemble quelques annonces. Voilà, et c'est notre présidente du Conseil, Aurore Sagliotebo, qui partage avec nous ses annonces.
Bonjour à tous. Merci pour tant d'émotions, toi et à Samuel. Dans le Cantique 204, ça m'a frappé, au joug facile, plein de douceur. Et je crois que nous avons tous énormément besoin de douceur, et en choisissant ce texte, Samuel, et en l'éclairant, vraiment un grand merci. Beaucoup d'entre vous viennent ici physiquement en ayant peur du virus, mais viennent et nous disent on ne peut plus rester seul, on ne peut plus rester derrière notre caméra. Donc nous sommes obligés à cause du virus de garder la maison presbytérale fermée, mais nous ouvrons le temple et cette semaine, nous reprenons le partage biblique à 14h30 ici pour avoir de l'espace et nous avons toujours avec Béatrice Cléromazir et la pause spirituelle le jeudi également à l'heure du déjeuner avec le pasteur Agnès Adeline Schaeffer qui est dans le cœur actuellement. Le soir, les activités sont en distanciel. Le jour, elles sont au temple. Donc, mardi, 14h30 et jeudi, 12h30, venez au temple. Ne restez pas seul. Ne restez pas seul. Venez au temple. Nous ne voulons pas filmer la pause spirituelle et le partage biblique parce que chacun d'entre nous a besoin de parler et de s'exprimer. On sait que si on le fait devant la caméra, ça ne sera pas le cas. Donc je vous en prie, venez rejoindre nos pasteurs, ne restez pas seuls. Nous sommes avec le conseil presbytéral et les pasteurs en train de penser à une autre émission, plus adaptée pour ceux qui sont derrière la caméra, mais physiquement venez, il y a de l'espace dans le temple, il n'y a pas de risque sanitaire particulier dans le temple. Venez partager avec nos pasteurs. Également le soir, ce mercredi, les jeunes, ne restez pas seuls. Les jeunes, vous avez un groupe de jeunes de l'oratoire, qui se rencontrent ce mercredi soir via Internet sur le thème de la fratrie, avec les pasteurs également. Ne restez pas seuls. Hein, c'est vraiment, vraiment important pour nous tous qu'on ne laisse personne isolé. Je crois que le message était très clair aujourd'hui sur ce point. Également, vous avez les conseillers de l'entraide qui sont là. Denise Brigou est également là. Il y a vraiment des gros besoins d'entraide en ce moment. Nous avons fait un appel pour les produits d'hygiène. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont venus avec un paquet ou pas aujourd'hui. Pensez-y. Discutez avec nos conseillers de l'entraide, avec Christiane, Jean-Claude, Denise, pour essayer aussi d'aider. Et aider les autres, ça permet aussi de ne pas rester seul et d'être en joie. Merci.
Voilà, c'est maintenant le moment de l'offrande. Donnez le cœur joyeux pour que cette parole continue à exister ici et partout où elle est relayée. Merci. Merci beaucoup au cœur de nous accompagner. Vous avez le panier connecté qui circule aussi. Si vous avez besoin de régler votre offrande avec une carte bleue, vous pouvez le faire. Je vais demander à Samuel et à ceux qui partageront la scène avec lui de me rejoindre. Voilà. Voilà, Gérard aussi. Voilà, alors mettez-vous au prêt pour que nous soyons ensemble. Samuel, si tu veux bien. Monsieur et madame à côté. Et puis peut-être de l'autre côté. Voilà. Voilà, on va passer de l'autre côté.
Louons Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père, quel bonheur de t'adorer partout et en tout moment. Quelle joie de te dire merci pour Jésus-Christ, ton Fils. Sa venue dans le monde a fait lever l'aube de ton règne d'amour. Humain parmi les humains, vivant jusqu'au bout ton pardon et ta paix, il nous a fait découvrir notre véritable humanité. Condamné au supplice de la croix, il s'est dépouillé de tout pouvoir et de tout prestige pour nous rendre libres de te servir. Ressuscité, il est le messager d'un monde nouveau, d'où toute oppression, toute larme et tout mal disparaîtront. C'est pourquoi, avec celles et ceux qui ont vécu et proclamé cette espérance pendant tant de siècles, avec ton peuple assemblé ici et partout, nous célébrons ton nom et nous te chantons. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant : prenez, mangez, ceci est mon corps. Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant : buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père.
Père, invité à ta sainte scène, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection. Et dans la confiance, nous te présentons notre monde, tel qu'il est aujourd'hui, avec tous ceux qui souffrent autour de nous, avec tous ceux qui sont endeuillés, tous ceux dont la vie est remise en question, tous ceux qui subissent de plein fouet cette crise sanitaire terrible qui n'en finit pas. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui tentent de régler cette situation terrible, qui mettent tous leurs efforts dans la possibilité de mettre un vaccin à la disposition de tous. Aide-nous, Seigneur, à être dans la confiance au moment où nous pouvons faire quelque chose pour que cette crise s'arrête. Aide-nous, Seigneur, à être solidaires des plus fragiles autour de nous, à protéger les autres, à penser toujours que nous sommes tous ensemble sur cette terre et que notre seule santé ne doit pas être notre seul souci. Donne-nous, Seigneur, des cœurs larges, des esprits larges, pour que nous puissions être ensemble dans la même solidarité au moment où la vie se fait plus difficile. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui exercent un métier qui est empêché par la crise sanitaire, tous ceux qui doivent revoir à la baisse l'exercice d'une passion, d'un métier qui les fait vivre, d'un métier qui les anime, qui les remplit de joie. Permets, Seigneur, qu'ils trouvent la patience et le sens d'un tel renoncement en leur cœur. Nous te présentons, Seigneur, tous les cas dans notre esprit de ceux qui ont besoin de ton aide pour traverser cette épreuve. Et ensemble, dans la confiance, nous nous levons et nous disons cette prière que le Christ a apprise à ses disciples qui lui demandaient comment prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Aujourd'hui, nous sommes tous ensemble. Quoi qu'il se passe autour, nous sommes tous ensemble. Et nous pouvons communier ensemble, quand bien même nous ne serions pas autour d'une table à prendre le pain et le vin ensemble. Dans notre cœur, nous prenons le pain et le vin ensemble. Et je vous invite à préparer vos livres avec le cantique 150, pour ceux qui ne connaissent pas encore toutes les paroles de ce cantique, et à chanter « À toi la gloire » pour notre Dieu qui nous réunit dans cette communion fraternelle. Ce sera votre façon de communier.
Le pain que nous partageons est la communion à la présence de Jésus, notre Seigneur. La coupe pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur versé pour tous. Prenez et mangez, prenez et buvez.
Voilà, frères et sœurs, n'oubliez pas de laisser vos livres là où vous êtes quand vous sortirez de ce lieu. Voilà, le temps de ce campement du dimanche matin est terminé. Vous pouvez continuer votre chemin. C'était le temps d'une escale, une escale avec notre Seigneur, un temps de fête, une coupure dans notre rythme habituel. Alors, frères et sœurs, allez. Allez comme Samuel qui a reçu le baptême, allez avec la joie de la foi de votre Seigneur en vous. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur de toute grâce vous bénit et vous garde. Amen. Bon dimanche à tous.